avons, les temps des siècles, nous amener devant lui, comme sa famille, jouissant du privilège insurpassable de posséder sa nature, de telle manière que nous sommes maintenant à l'aise chez nous, dans la maison de Dieu, devant Dieu, rendu saint, irréprochable et irrépréhensible. Tout cela fondé sur l'œuvre de Christ, sur la valeur infinie du sang qui a été répandu à la croix. Il n'y a pas de pensée plus douce que celle de l'habitation de Dieu avec l'homme. Elle traverse toute l'Écriture. On peut dire, dans un certain sens, que Dieu accomplira toutes ses pensées et le septet de l'Apocalypse, quand l'habitation de Dieu sera avec les hommes, correspond au sept accompli prononcé sur la croix. Et lorsque Dieu sera tout en tous, et que son habitation sera avec les hommes par l'Église, à travers l'Église, base de la gloire pour l'éternité, lorsqu'elle sera accueillie au ciel, bien entendu, ce sera la demeure définitive. Et pensons que sans se tromper, on peut dire qu'il y aura eu sept maisons de Dieu sur la terre. À commencer par le tabernacle, les deux temples de l'Ancien Testament, celui de Salomon, celui reconstruit comme le livre d'Esdras nous le rapporte, l'habitation centrale, car en toute chose il tient la première place, c'est Christ, la gloire de Dieu a tabernaclé, comme Jean nous le dit dans son premier chapitre, car l'expression le tabernacle n'est pas quelque chose de provisoire, la tente qui couvre le tabernacle, oui, mais le tabernacle lui-même, c'est Christ, c'est l'habitation de Dieu était en Christ, la plénitude de la déité habitée en lui corporellement, et le Seigneur ne quittera plus jamais l'humanité qu'il a revêtue. Dieu était en Christ. Christ est la parfaite expression du tabernacle, et dans le tabernacle de l'Ancien Testament, nous avons en figure toutes les gloires de sa personne, toutes les gloires de son œuvre. Tout ce qu'il a été, toute sa plénitude nous est annoncée dans des types infiniment précieux. Dieu habite maintenant en vertu de l'œuvre de Christ par son esprit dans l'assemblée. L'Éternel habitera dans le nouveau temple d'Ézéchiel, et enfin la dernière habitation. Voici, le propos de Dieu est accompli, l'habitation de Dieu est avec les hommes. Dieu se reposera dans son amour, dans l'accomplissement de ses pensées. Nous venons de dire, chers amis, ce que vous savez bien, que ces saints livres de Moïse sont une mine inépuisable de richesses pour nous parler de Christ. Car depuis la première ligne jusqu'à la dernière de la parole de Dieu, l'Esprit nous parle de lui. Nous parle de ce qui est cher au cœur de Dieu, de son Fils et de l'Église, de son épouse qu'il voulait lui donner. Car la première page de la Bible, les premières pages de la Bible sont remplies d'une noce. Les noces que Dieu fait à Adam, et la parole de Dieu, la révélation, se termine par les noces de l'agneau. Que ces saints livres soient infiniment précieux, nul ne saurait l'oublier, nul ne peut l'oublier. Nous avons souvent entendu rappeler que Dieu a caché le Nouveau Testament dans l'Ancien, et l'Ancien est révélé dans le Nouveau. Dieu nous parle par des types, par des figures, par des images, adaptant la vérité à notre vue limitée, mais, comme le dit notre cher Levancier, avec une exactitude divine. Cela est digne de Dieu. Que les saints livres de Moïse nous parlent de Christ, on peut dire aussi, c'est tellement vrai qu'il y a un chapitre central dans chaque livre où Christ est particulièrement placé devant nous. Si nous demandions à nos jeunes amis de nous dire quels sont les chapitres où Christ est particulièrement devant nous dans les saints livres de Moïse, il n'hésiterait pas d'un instant. Il nous rappellerait que Genèse 22 est au cœur de la Genèse pour nous parler du sacrifice du Seigneur. De l'amour du Père l'amour que le Père éprouve pour son Fils et l'amour que le Père éprouve pour nous. Prends ton Fils, ton unique, celui que tu aimes. Genèse 22, le sacrifice en vertu duquel alors Abraham peut recevoir les promesses les plus hautes que Dieu lui donne en raison du sacrifice en figure qui vient d'être accompli. Toutes les promesses de Dieu sont présentées à Abraham, sont confirmées à Abraham à partir du sacrifice d'Isaac. Dieu n'ayant personne de plus grand par qui jurer, jure par lui-même. Et il nous montre que toutes les bénédictions à la fois pour la terre et pour le ciel reposent sur Christ, la vraie semence d'Abraham. Livre de l'Exode, nous pensons chacun aux serviteurs hébreux. J'aime, ce n'est plus seulement l'amour du Père pour le Fils et l'amour du Père pour ses enfants. Car le Seigneur dira, en parlant de nous, au Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et nous avons au milieu du livre de l'Exode, l'amour du Fils pour le Père et l'amour du Fils pour nous. Car le Seigneur n'a pas seulement dit, en parlant de son Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé, et qui pourrait sonder cette mesure de l'amour, mais il ajoute aussi, je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Genèse, nous l'avons vu. Exode, c'est le serviteur hébreu. J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Si nous passons au livre de Lévitique, pour avancer un peu, nous avons le chapitre central que chacun a lu avec intérêt, c'est le chapitre 16. C'est le sacrifice du Seigneur, c'est le grand jour des propitiations. Le sacrifice du Seigneur qui répond pleinement à toutes les exigences de la gloire de Dieu, c'est le premier bouc offert pour la gloire de Dieu, le sang est porté sur le propitiatoire, et dans le deuxième bouc offert, ce sont les péchés du peuple qui sont confessés. Notre salut, notre pardon, notre acceptation devant Dieu, après tout, n'est que subsidiaire. Mais le grand fait, le fait important par-dessus tout, c'est que Dieu a été glorifié. Il a été infiniment plus glorifié par l'œuvre, par la mort de son fils et d'un de nos chers frères, plutôt que par une humanité demeurée dans l'innocence. Et Dieu, ainsi glorifié, a acquis ce droit maintenant de nous bénir et de déployer envers nous, de déployer à l'égard de l'homme, ces plans d'amour et de grâce qui datent de toute éternité. La croix lui donne ce droit de déployer toute sa grâce. Nous sommes justifiés maintenant par sa grâce, nous sommes justifiés par le sang de la croix. Lévitique 16 est le chapitre sur lequel s'articule d'ailleurs le début aux Hébreux, comme nous le savons. Dans le livre des Nombres, nous pensons à la Genèse Rousse, le nombre 19, mais il ne faut pas nous y attarder. Pour enfin, dans le Deutéronome, nous porter nos regards sur la Genèse qui descend dans la vallée. Elle n'a jamais porté le jour. Mais il s'agit de répondre aux nécessités d'un crime qui a été commis, et il s'agit de faire face à la responsabilité de ceux qui sont engagés des premiers, la ville la plus coupable. Il fallait mesurer, donc à partir de l'endroit où l'on trouvait un homme tué dans les champs, il fallait mesurer quelle était la ville la plus coupable. Quelle est la ville la plus coupable au monde? Quel est le peuple le plus méchant de la terre? C'est le peuple qui a été le plus privilégié, c'est la ville qui a été portée au ciel, c'est Jérusalem. Et il fallait mesurer, à partir de celui qui était trouvé tué dans les champs, quelle était la ville la plus proche, c'est Jérusalem. Mais la grâce de Dieu est telle, chers amis, ou combien cela est touchant, c'est par Jérusalem qu'il fallait commencer à annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Le Seigneur commissionne, donne ce mandat aux disciples et leur dit de commencer par Jérusalem, afin que là où le péché abondait, la grâce surabonde. Satan veut mobiliser toutes ses forces. Le peuple juif, les Romains, les puissances, tous les hommes sont ligués ensemble à la suite de Satan. Les puissances spirituelles de méchanceté sont toutes là autour de la croix. Et apparemment, Satan remporte la victoire la plus complète. Mais dans cette victoire apparente, il essuie une défaite dont il ne se relèvera jamais, car sa tête a été brisée, son pouvoir a été détruit. Et maintenant, la grâce de Dieu peut se déployer envers Jérusalem. Et selon le propos de Dieu, car les dons et l'appel de Dieu sont sans frontières, cette ville, dans un jour à venir, sera élevée par un effet de la puissance de Dieu et sera la métropole de toute la terre. Bien que, en étant passant, nous n'oublions pas, à côté de la grâce de Dieu, un des rails du chemin de fer, l'autre L'autre rat est le gouvernement de Dieu, et selon le gouvernement de Dieu, ce pauvre peuple va devoir passer dans les jours à venir par une tribulation sans précédent. Mais pour nous montrer, chers amis, pour essayer de nous montrer que tout l'Ancien Testament est rempli de Christ, en particulier les cinq livres de Moïse. Le livre de l'Exode nous donne dans le chapitre 40 le résumé, le résultat de tout ce qui précède. C'est l'arrangement que Dieu a prévu et qui est maintenant mis en œuvre par Moïse. Il y a à peu près 9 mois que le tabernacle a été commencé et qu'il s'agit maintenant de le dresser le premier mois, le premier jour du mois, la deuxième année de leur sortie d'Égypte. Remarquons qu'il s'agit d'un anniversaire extraordinaire. Au premier mois, l'année précédente, la Pâque a été offerte. Et au premier mois de l'année qui suit, maintenant le tabernacle est constitué, le tabernacle est construit. Dieu ne peut habiter avec l'homme qu'en vertu de la rédemption. Car en effet, Dieu n'a pas habité ni avec Adam, ni même avec Abraham. Il visitait Abraham, il a traité Abraham comme son ami, le terme est dans l'Écriture, et il lui a donné les communications du plus haut prix, mais jamais Dieu n'a habité avec Abraham. Dieu n'habite avec l'homme qu'à partir du moment où, en figure, la rédemption est accomplie. C'est après le sang qui a été aspergé sur les poteaux et sur le linteau de la porte de l'Israël, c'est après que le sang a répondu à toutes les exigences de la justice de Dieu, que Dieu peut dire « Maintenant, j'habiterai au milieu de vous ». Et le tabernacle est une image de ce qui se trouve dans les lieux célestes, c'est l'ombre, c'est la figure de ce qui se trouve dans les lieux célestes, c'est aussi une image de l'Église, si l'on veut, c'est aussi et surtout, nous l'avons dit tout à l'heure, un type précieux dans tous ces détails des gloires de Christ, de ce qu'il a été dans sa personne, de ce qu'il a été dans son âme. On a dit que dans le livre de l'Exode, après la rédemption, Dieu énonce à Moïse des choses bien précieuses. On commence d'abord par les symboles que l'on a appelés du déploiement, c'est-à-dire comment Dieu se révèle, comment Dieu se manifeste. Il y a ensuite les symboles d'approche, comment on s'approche de Dieu. Quand Dieu commence avec Moïse, il parle d'abord de ces symboles de déploiement et il va placer devant nous l'objet qui est suprême pour son cœur. Comment parle-t-il dans le livre de Lévitique? Il y a toute une série de sacrifices. Dieu ne commence pas par ce qui est nécessaire à l'homme. Nous avons besoin de sacrifices pour le péché. Nous avons besoin d'avoir nos péchés pardonnés. C'est le premier pas dans la vie de Dieu. La vie de Dieu que l'homme reçoit commence à la croix, au pied de la croix, lorsqu'il a l'assurance d'avoir reçu le pardon de ses péchés. Mais Dieu ne commence pas par le sacrifice pour le péché. Dieu commence par l'Holocauste. Dans les symboles du déploiement, il en est pareil, il en est ainsi, il commence par ce qui répond aux pensées de son cœur. Et de quoi va-t-il parler à Moïse, en premier lieu? De quoi parle-t-il? Du lieu très saint, car le chapitre se divise en 7 parties, si l'on veut bien compter le chapitre 40, et la première chose qui est placée devant nous, c'est le lieu très saint dans lequel il y a l'arche. Autrement dit, Christ est tout de suite placé devant nous, c'est la première pensée de Dieu, c'est l'objet le plus précieux de son cœur. Christ devant lui, l'œuvre de Christ toujours devant lui. Et on a dit, pour Dieu, l'œuvre de Christ est toujours présente, comme cela avait eu lieu ce matin. Si on était ainsi pour nous, chers amis, notre vie serait entièrement transformée. Pour Dieu, c'est comme si la croix avait été dressée ce matin. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ est toujours là devant lui. Alors nous avons le tabernacle dressé, tu placeras l'arche du témoignage, et tu la couvriras avec le voile. La première chose dont Dieu nous parle, c'est l'arche. Autrement dit, la personne de Christ. Car en effet, l'arche était constituée de 2 matériaux, le bois de Sittim, bois imputrescible, bois d'acacia, mais plaqué d'or, recouverte d'or pur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Autrement dit, nous avons là la gloire de la personne de Christ, c'est-à-dire sa divinité toute puissante unie à l'humanité dépendante. Le bois de Sittim, la racine qui sort du tronc d'Isaïe, l'Orient d'en haut et en même temps le germe, et l'or nous parle de sa gloire divine. Cet assemblage, cette combinaison harmonieuse que nul ne peut sonder. Le Père seul connaît cette gloire. Seul le Père connaît le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et Dieu n'a confié à personne, n'a donné à personne la révélation de ce secret. C'est-à-dire l'union de la divinité avec l'humanité. C'est un secret inscrutable pour l'homme. Si nous pouvions l'aborder, nous ne serions plus des hommes. Dieu seul possède, connaît ce secret et il ne l'a livré à personne. De sorte que dans l'Ancien Testament, il était défendu de regarder dans l'arche, voir venir l'arche. Quand elle était absente de la terre d'Israël et qu'elle rentrait dans le pays, c'était un sujet de joie incomparable. Mais lorsque les mêmes hommes ont voulu regarder dans l'arche à Beth-Shemesh, Dieu les a frappés. Nous ne pouvons pas sonder l'arche, nous ne pouvons pas connaître les limites de la divinité et de la sainte humanité du Sauveur. C'est un secret, Dieu l'a caché dans l'inscrutabilité de sa personne. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et aujourd'hui, où l'ennemi s'acharne contre les vérités fondamentales, il n'a pas manqué de porter atteinte, d'essayer de mettre tout en œuvre pour porter atteinte à cette vérité capitale, sans le maintien de laquelle il n'y a pas de christianisme. Car c'est le surfondement. Christ est la pierre angulaire. Christ est le fondement. Et si l'on touche à ce fondement, il n'y a pas d'édifice possible. Première chose, l'arche. Christ dans toute la gloire de sa personne. Qu'y avait-il sur l'arche? Non seulement il y avait l'arche, il y avait le corps, mais il y avait le propitiatoire d'or pur, sur l'arche, couverte de l'arche, avec les deux chérubins qui ombrageaient le propitiatoire. Non seulement Christ dans la gloire de sa personne, mais aussi Christ dans toute l'efficace de son œuvre. Le propitiatoire nous parle de la valeur de son œuvre. C'est ce que Paul nous dit dans les termes mêmes en Romains 3, maintenant, sans loi, sans que la loi intervienne, la loi n'a rien pu faire pour l'homme, la loi n'a rien pu donner à l'homme, maintenant, sans loi, la justice de Dieu est manifestée, la justice vive de Dieu, envers tous et sur tous ceux qui croient, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire, par la foi en son sang, non seulement sa personne, mais l'œuvre accomplie, le sang répandu, la vie donnée qui répond à toutes les exigences de Dieu et qui me permet de me tenir maintenant saint, irréprochable, irrépréhensible devant Dieu. Qu'est-ce que c'est cela, chers amis? Saint, c'est-à-dire qu'un croyant lavé dans le sang de Christ répond entièrement à la nature de Dieu, car en venant à la croix et en recevant cette vie nouvelle, c'est la vie de Dieu qui répond à sa nature, dans son caractère. Saint, il répond, je suis saint, je réponds à la nature de Dieu, lavé dans le sang de Christ, possédant la vie de Christ, en association avec lui au-delà de la mort, et ensuite, irréprochable, aucun reproche ne peut être fait en croyant. Dieu m'a tout pardonné, l'œuvre de Christ a répondu pleinement tout ce qui était nécessaire pour cela. Et irrépréhensible, c'est-à-dire rien ne peut m'être mis à charge. Je réponds à la nature de Dieu, aucun reproche ne peut m'être fait maintenant, quant à ma position en Christ, et rien ne peut m'être mis à charge, saint, irréprochable, irrépréhensible devant Dieu. Nous le devons à l'arche, nous le devons au propitiatoire. C'est la première chose que Dieu place devant nous, et nous entrons dans le tabernacle par l'endroit le plus fermé, le plus saint, c'est-à-dire le saint des saints lui-même, dans lequel il y avait l'arche qui était transportée alors lorsque le voile était placé sur lui, sur elle, et maintenant la couverture dont il est question envers ses croix serait donc le fait qu'elle est cachée par le rideau qui descend devant elle. On pense, en lisant attentivement dans l'Écriture, que les sacrificateurs défendaient donc le rideau, et puis le laissait tomber sur l'arche, sans regarder l'arche, la transportait sur le rideau, il y avait le voile de bleu en plus, et quand l'arche était entrée dans le tabernacle après un transfert dans le désert, la même opération en sens inverse s'accomplissait. On prenait le rideau, on le reprendait de telle manière que le rideau cachait l'arche. C'est-à-dire que toute la gloire de la personne de Christ était cachée dans son humanité. Car le rideau, il y en a trois, vous avez tous remarqué cela. Il y a le rideau qui cache l'entrée du Saint des Saints, il y a le rideau qui est à l'entrée du lieu saint, et il y a le rideau qui est à l'entrée du parvis. Les trois rideaux sont faits des mêmes matériaux, le bleu, la pourpre, l'écarlate, le fin coton retors. les gloires du Seigneur présentées par chacun des évangiles. Mais une chose extraordinaire et qui ne peut manquer de frapper un lecteur attentif, dans le voile du parvis, le Seigneur a dit, ne nous oublions pas, je suis la porte, car nous commençons par l'arche. Et vous voyez, nous allons terminer au Nazareth par le rideau de la porte du parvis. Nous avons parlé des symboles du déploiement. Les voilà, nous commençons par l'arche et nous terminons par le rideau du parvis. Autrement dit, par la porte par laquelle nous entrons dans la connaissance et la jouissance de Dieu lui-même. Alors, cette porte du parvis, ce rideau, est différent des deux autres rideaux, quoique constitués des mêmes matériaux, en ce sens qu'il ne comporte pas de chérubin. Chérubin, expression du jugement de Dieu. Il se trouve sur le rideau, qui est l'entrée du lieu très saint, comme il se trouve sur les tentures qui descendent, qui constituent le lieu très saint. Partout dans le lieu très saint, lorsque l'on regarde, on trouve des chérubins. Et sur le voile, et sur les tentures qui forment l'enceinte du lieu très saint. Les chérubins vont nous parler des saintes exigences de Dieu qui toutes ont été satisfaites. Il y a un homme maintenant au ciel qui a passé par le jugement de Dieu, qui l'a supporté. Et celui qui a pu supporter ce jugement de Dieu, nous ne l'oublions pas non plus, est celui que Dieu a établi, juge des vivants et des morts. Cet homme qui est au ciel, qui a souffert, qui a été méprisé, qui a été rejeté, qui a été humilié jusqu'à la croix, d'une part par l'homme, et qui a supporté tout le poids du jugement de Dieu d'autre part, c'est lui qui demain va juger tous les hommes, les vivants et les morts. Les chérubins rappellent cela, comme dans le lieu saint. Mais sur la porte du parvis, bien que le rideau qui est donc la porte du parvis, bien qu'il soit fait aussi de bleu, de fauve, d'écarlate et de fin coton retors, nous n'avons pas de chérubin. Eh bien, les Juifs, à un moment donné, vous rappelez toute cette scène, ils ont surpris une femme dans la condition que chacun se rappelle. Et ils se disent maintenant, il ne peut plus échapper, il ne peut pas être en contradiction avec ce qu'il a dit. Il a dit qu'il était venu accomplir la loi. Or, la loi nous enseigne sans équivoque qu'une telle femme doit être lapidée. Une femme, il nous a dit qu'en même temps, il veut miséricorde et non pas sacrifice. Mais dans ce cas, il doit prononcer le jugement. Eh bien, chers amis, il n'y avait pas de chérubin sur le voile. Comment le Seigneur va-t-il faire? Il va les inviter à jeter la première pierre et ils vont commencer à sortir par celui, les uns que les autres, le plus âgé d'abord le premier. Le Seigneur dira, femme, où sont ceux-là, tes accusateurs? Nul ne t'a-t-il condamné? Nul, Seigneur. Pas de chérubin sur le voile. Moi non plus, je ne te condamne pas. Vous voyez comme l'écriture est parfaite, même dans le titre. Pas de chérubin sur le voile du rideau, car nous avons là une image de Christ qui nous invite à entrer dans la présence de Dieu. Et ce que les chérubins requièrent contre nous, lui allait le porter, allait le supporter en son corps sur le voile. Car il a porté nos péchés en son corps sur le voile. Sauf que nous avons le lieu saint, le lieu très saint. Nous entrons ensuite dans le lieu saint à partir du verset 4. Tu apporteras la table. Il y a le chandelier et l'autel d'or. Trois objets, trois ustensiles importants dans le lieu saint. Nous avons donc commencé dans le lieu très saint, où il n'y a proprement parlé que l'arche, Christ, qui est là devant Dieu. Le trône de Dieu, la gloire de Dieu, enfermé dans le tabernacle, dans le lieu très saint, par le rideau. Sauf que pour nous, aujourd'hui, ce rideau, ce voile, a été déchiré. Car pour les Juifs, le rideau marquait bien que Dieu était caché dans le tabernacle et qu'il n'y avait pas d'accès, il n'y avait pas de chemin ouvert jusqu'à Dieu. Tandis que pour nous, il y a aujourd'hui un chemin nouveau, un chemin vivant, ouvert jusqu'à Dieu, car après l'œuvre de Christ, le voile a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Dieu montrant ainsi que c'en était fini de cet ordre de choses anciens, qu'un ordre de choses nouveau lui succédait et que l'entrée était établie en justice devant lui et qui est entré le premier. Dans l'évangile selon Luc, c'est très remarquable. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est un pauvre brigand que le Seigneur dit cela et c'est à ce moment-là que nous avons la mention du voile déchiré, du lieu très saint, ouvert en faveur d'un brigand tel que cet homme, mais lavé dans le sang de Christ. Il entre avec le Seigneur dans le paradis, à travers un nouveau, par un chemin nouveau et vivant. Le voile est donc déchiré pour nous. Maintenant, dans le lieu saint, dans la première partie du tabernacle, les deux n'en font plus qu'un maintenant. Nous avons donc trois ustensiles importants. Nous avons le chandelier, nous avons la table et nous avons l'autel d'or. Le chandelier nous parle toujours de lui. Il s'agit de lui dans tous les ustensiles. Le chandelier nous parle de lui. C'est un bloc d'or d'un talent qui ne comporte pas de pièces rapportées. Il était battu au marteau pour former ce bloc d'or d'un talent qui est battu au marteau pour former, après avoir été l'objet du travail de cet artisan, pour former cette pièce admirable où il y a une tige centrale et puis trois d'un côté, trois de l'autre côté, trois tiges pour former sept tiges qui sont issues, sorties de lui, qui font corps avec lui. Ce ne sont donc pas des pièces rapportées, mais le marteau de l'artisan a formé cet ensemble, Christ la tige et les croyants en association avec lui pour refléter, pour porter dans ce monde cette lumière qui a brillé de tout son éclat en lui. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Nous sommes, comme Paul le dit dans l'Épître aux Philippiens, des luminaires dans ce monde. En association avec lui, la vraie lumière qui a brillé dans ce monde, en association avec lui, cette vie que nous possédons maintenant, cette vie nouvelle, elle se caractérise par dans la lumière. Nous sommes lumière dans le Seigneur. Sauf que vous voyez, ce ne sont pas des pièces rapportées, mais tout est issu de lui. Tout vient de lui, lui, la tige centrale du chandelier. Première chose que le chandelier faisait, c'était de s'éclairer lui-même. Car le Saint-Esprit rend témoignage au gloire de Christ. L'huile qui alimente le chandelier, image du Saint-Esprit, et qui alimente les lampes, c'était d'abord pour éclairer sur le devant du chandelier. Il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Le Saint-Esprit passe devant nous toutes les gloires de Christ. Le chandelier qui éclaire dans le lieu saint. Le chandelier qui éclaire la table sur laquelle il y avait les pains de proposition, les 12 pains sur la table. Vous avez remarqué l'expression ? Nous avons donc au verset 4, tu y arrangeras ce qui doit être arrangé. Il y avait donc un arrangement à prévoir, à observer à l'égard des pains que l'on plaçait sur la table. Au verset 23, et il rangea sur elle en ordre le pain devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Il n'y a donc pas d'arrangement humain, c'est un arrangement ordonné par Dieu. En ordre, tu arrangeras ce qui doit être arrangé. Quel enseignement, cher ami, pour nous important. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, ce qui doit être arrangé, ce qui doit être maintenu en ordre? De quoi nous parle la table avec les pains, avec cet arrangement, ce qui doit être ordonné? Cela est un enseignement du plus haut prix pour nous, un enseignement très pratique, car Christ est en effet la table, avec son couronnement d'or et les 12 pains, en association vivante avec ceux dont il a fait des enfants de Dieu, qu'il n'a pas honte, et à l'égard desquels il n'a pas honte de dire ce sont mes frères, et qui sont devenus membres de lui-même. Car l'œuvre de Christ est telle que nous sommes devenus des membres du corps de Christ. Christ est présenté comme le chef de la famille, comme le berger du troupeau. Christ est présenté comme le souverain sacrificateur de notre confession, mais aussi comme l'époux de l'Église et comme la tête du corps. Et il n'y a pas de figure plus saisissante, plus touchante pour nous parler de l'association de Christ avec les siens, avec son Église, qui est son corps formé de tous les croyants à un moment donné sur la terre. C'est l'aspect que nous trouvons dans l'Épître aux Corinthiens, tandis que dans l'Épître aux Éphésiens, nous avons l'Église vue comme le corps de Christ, mais selon la pensée de Dieu dans son ensemble, telle que l'Église sera ce soir peut-être au ciel avec le Seigneur, elle sera alors vue selon la pensée de Dieu révélée dans Éphésiens. Mais dans l'Épître aux Corinthiens, nous avons le corps, à un moment donné, ce soir, à l'heure qu'il est, il y a maintenant sur la terre le corps de Christ, formé de tous les vrais croyants. Cette unité du corps de Christ, elle n'est plus visible. Hélas, la dispersion des croyants est telle. La ruine intervenue fait que cette unité extérieure n'est pas visible. Mais elle existe. Et aussi bien aujourd'hui qu'au livre, qu'au plus beau jour du livre des Actes, la parole de Dieu ne peut être anéantie, l'infidélité de l'homme ne peut pas culbuter la parole de Dieu, les déclarations divines, il y a un seul corps. Aujourd'hui, comme au plus beau jour de l'Église, il y a un seul corps, car ce corps est formé par le Saint-Esprit, ce corps est formé de tous les vrais croyants qui ont reçu la vie de Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit comme sceau de leur foi, et qui sont ainsi unis d'une manière vitale, indestructible avec Christ, qui est la paix glorifiée au ciel. C'est la vérité que l'apôtre Paul a déjà prise le jour de sa conversion sur le terrain de Damas. J'ai persécuté, dit-il, outre mesure, l'assemblée de Dieu. Comment le Seigneur lui parle-t-il? J'ai persécuté, dit-il, l'assemblée de Dieu. Comment le Seigneur lui parle-t-il? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? De sorte que Paul apprend sur le chemin de Damas déjà la substance des vérités qui lui seront révélées plus tard, qu'en persécutant Jésus, il persécutait l'assemblée de Dieu formée de tous les croyants sur la terre contre lesquels, dans son aveuglement, il se ruait sans aucun sentiment quelconque de pitié ou de ménagement aucun. C'était un véritable, comme on l'a dit, un véritable benjaminite, dont le nom veut dire un loup qui déchire. Mais ce loup qui déchire allait devenir, par la grâce de Dieu, une nourrice. Un homme qui aurait donné sa vie pour les faire, aussitôt que la demande lui en aurait été faite. Eh bien, chers amis, il y a l'arrangement convenable. Car, quelle que soit la ruine intervenue dans l'Église, dans la chrétienté, quelle que soit la forme revêtue par l'Église qui est devenue cette immense chrétienté, il y a ce qui est vital, le corps de Christ. Comment devons-nous voir l'Église aujourd'hui? Bien, dans des enseignements si précieux que nous avons reçus, il y a deux manières de voir l'Église. Si nous la voyons seulement comme elle est aujourd'hui, défigurée, dans la ruine, dans la faiblesse, dans marchant à grands pas vers l'apostasie, il y a bien de quoi être affligé et être peut-être découragé. Et nous devons avoir ce sentiment. Mais nous ne devons pas, il n'est pas possible que nous nous limitions à cette vue de l'Église. Car, comme je viens de le dire quelque part, nous regardons l'Église comme elle était au commencement, et comme elle sera à son point d'arrivée. Et cela nous donne du courage en la voyant comment elle est sortie au beau jour du livre des actes. Donc, lorsqu'elle est sortie dans toute sa beauté pour être présentée au Seigneur, et comme elle sera demain lorsqu'il va se la présenter à lui-même, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous considérons l'Église comme elle est sortie des mains du Seigneur dans le livre des actes, et nous la regardons telle qu'il va la voir peut-être ce soir. Cela présenté à lui-même, pareil de toutes ses gloires. Aujourd'hui, si nous la regardons, c'est un sentiment de tristesse, de honte qui doit nous remplir. Mais sans oublier ce sentiment de joie, de triomphe, qui s'appuie sur la vérité de Dieu, car le sûr fondement de Dieu demeure ne peut être ébranlé. Alors nous éprouvons ces sentiments tout à la fois, c'est ce qui faisait dire à Michel Levancier notre témoignage aujourd'hui, et ne serions-nous que quelques-uns à le réaliser, notre témoignage aujourd'hui, nous que le Seigneur a éclairé, à qui le Seigneur a confié un dépôt si précieux, notre témoignage il est à l'unité du corps de Christ, mais aussi, nous ne pouvons l'oublier, à la ruine de l'Église. Comment avons-nous cet arrangement? Où trouvons-nous cet arrangement? Eh bien, nous le trouvons ici chaque dimanche matin. Car à quelques-uns seulement, nous n'oserions jamais dire que nous sommes l'assemblée ou que nous sommes les frères. Nous sommes seulement des frères. Nous ne sommes qu'une bien faible expression de l'assemblée. Mais nous tenons sur le terrain du seul corps de Christ. Ne reconnaissant que ce terrain sur lequel la table du Seigneur est dressée. La table du Seigneur ne peut être dressée sur un autre terrain. Fût-il encore celui adopté par les croyants ou mis en œuvre par des croyants, si fidèles soient-ils, nous ne pourrions dire que c'est qu'il y a là la table du Seigneur. Dieu ne reconnaît sur la terre qu'un seul corps, celui qui est formé par tous les croyants. Et la qualité, le mot de membre, la qualité de membre ne se rapporte qu'au corps de Christ. Jamais dans l'Écriture, nous ne sommes vus comme faisant partie d'une Église. Nous ne pourrions jamais dire que nous sommes membres de l'Église de Bellevire, par accommodation peut-être pour nous faire comprendre, mais en réalité, la qualité de membre ne se rapporte qu'au corps de Christ. Nous sommes membres du corps de Christ, pas membre d'une église locale. Une assemblée locale n'est que l'expression de cette assemblée tout entière. Et ce qui établit la communion de les diverses assemblées réunies sur ce terrain, c'est la table du Seigneur. Et la table du Seigneur n'est donc dressée que sur le terrain du seul corps de Christ, le seul que Dieu reconnaisse. Et nous tenons là, comme des membres du corps de Christ, nous prenons la scène ensemble, c'est le mémorial selon 1 Corinthiens 11, mais dans la fraction du pain, à quelques-uns seulement, comme en qualité de membres du corps de Christ, nous exprimons l'unité de l'Église tout entière. Nous en sommes une faible expression, mais le principe est le principe divin du rassemblement, et ce principe est le principe divin du rassemblement, et il n'y en a pas d'autre. De sorte que vous voyez que déjà dans l'Ancien Testament, nous avons, il rangera sur elle en ordre le pain devant Dieu, verset 23. Le pain en ordre devant Dieu. Non seulement nous nous souvenons de la mort du Seigneur, mais nous proclamons à la table du Seigneur que nous formons avec tous les croyants, les embrassant dans nos cœurs et dans nos pensées, les embrassant tous sans en oublier aucun, nous proclamons qu'il y a un seul corps, comme au plus beau jour de l'Église. Quel bonheur que cette unité du corps de Christ ne dépend en aucune manière de nous. La manifestation extérieure est terminée. Nous avons nous ennuyé à mener l'œil, mais la vérité de Dieu demeure. Et nous rendons témoignage à ce qui ne peut être ruiné. Et puissions-nous le faire avec les sentiments qui conviennent, en réalisant la ruine et en pleurant sur la ruine comme tous les hommes de Dieu l'ont fait, mais en proclamant qu'il y a comme au plus beau jour, comme au plus mauvais jour de l'histoire d'Israël, qu'il y a 12 pains sur la table. Élie reconstitue un autel de 12 pierres. Ces hommes de Dieu ont toujours réalisé la pensée de Dieu que pour lui, quels que soient les temps dans lesquels Israël s'est trouvé, le schisme intervenu, pour la foi, il y avait 12 pains sur la table, il y avait l'arrangement convenable et le pain en ordre devant l'Éternel, c'est-à-dire les deux rangées de 6 pains, les 12 tribus d'Israël rappelées devant Dieu pendant toute la nuit de l'existence d'Israël et malgré sa dispersion et les circonstances si tragiques que ce peuple a connues au cours de son existence. Pour Dieu, il y a toujours 12 pains sur la table. Et la foi peut triompher en disant, et ainsi, tout Israël sera sauvé, car un jour, les 12 tribus seront là sur la scène. Comment les trouver aujourd'hui? Avons-nous pensé à cela? Comment retrouver tous les croyants? Si nous voulions chercher tous les croyants des environs ici pour nous réunir, ce serait une tâche impossible. Mais Dieu connaît ceux qui sont siens. Et Dieu n'en oubliera aucun. Et dans le prophète Ézéchiel, en parlant des dix tribus qui sont perdues aujourd'hui, le Seigneur dit, je n'en laisserai aucun de reste parmi les nations. C'est un miracle extraordinaire. Qui pourrait retrouver des 10 tribus aujourd'hui? C'est au-delà de... Cela dépasse l'entendement humain. Eh bien, Dieu dit, je ne laisserai aucun de reste. Ézéchiel 39, je ne laisserai aucun des fils d'Israël de reste parmi les nations. Ils seront tous dans leur terre. Et ainsi, selon sa promesse, tout Israël sera sauvé. Les 12 pains en rendent témoignage. Il y avait ensuite l'autel d'or, l'autel du culte, l'autel sur lequel nous faisons brûler l'encens pur, qui était salé, qui était pur, qui était saint, pour attester les trois qualités essentielles, fondamentales, que les apôtres affirment quand ils disent l'un Paul, l'autre Pierre et le troisième Jean, qu'il n'a pas connu le péché, qu'il n'a pas commis de péché et qu'il n'y avait point de péché en lui. L'encens que l'on brûlait sur l'autel, salé, pur, saint, c'est-à-dire faire monter devant Dieu toutes les grâces de Christ, rappeler devant Dieu tout ce que son Fils a été dans sa carrière sur la terre, la parfaite offrande de gâteau, sur laquelle on plaçait d'ailleurs l'encens pour le faire brûler, toutes les gloires de la personne de Christ. L'autel de l'encens, l'autel d'or, pour finir alors par le parvis, à partir du verset 6, où il y avait l'autel de l'Holocauste et la cuve des reins entre l'autel et le tabernacle. Et nous terminons par le rideau, comme nous l'avons vu au verset 8. L'autel dans le parvis, la cuve des reins. Nous avons dans le verset 9 à 11 la mention de l'huile de l'onction avec laquelle il fallait oindre tout le tabernacle. Quelle vérité importante, cher ami. Selon l'ordonnance de Dieu, tout fut oint d'huile. Christ a été de même consacré et oint d'Esprit Saint et de puissance. comme il devait réconcilier toutes choses par son sang, nous avons ici la mention que du Saint-Esprit qui porte partout dans le tabernacle, qui avait été aspergé de sang, le Saint-Esprit, l'huile qui a, avec laquelle on oint tous les ustensiles, le Saint-Esprit porte partout le témoignage de l'efficace, de la valeur de ce sang, en vertu duquel Dieu était glorifié, les croyants sauvés, Israël restauré et les nations amenées à la bénédiction sur la terre dans un jour à venir, et l'Église unie à son chef pour l'éternité. Le Saint-Esprit rend témoignage de toutes ces gloires. Et que dit-il? Oui, et tu sanctifieras l'autel, verset 10, et l'autel sera une chose très sainte. Le Saint-Esprit nous ramène à l'autel, une chose très sainte, c'est-à-dire, il nous ramène à la croix. Et c'est une chose très sainte, l'autel de l'Holocauste, là où Christ a été offert, où Christ a souffert, où tout a été brûlé sur l'autel, non pas à demi-cuit, mais rôti au feu, l'intérieur, la tête, les jambes, le sacrifice qui est brûlé tout entier sur l'autel, pour nous rappeler, pour nous annoncer qu'il a souffert, qu'il a été l'objet de tout le jugement de Dieu. Lorsque l'homme a mis le point final à tout ce qu'il avait dans son cœur d'inimitié contre Dieu, alors Dieu entre en scène. Dans Matthieu 27, il y a un mais de la plus haute importance. Le Seigneur a été provoqué, Dieu a été provoqué de toute manière. Le Seigneur est insulté par l'homme comme roi d'Israël, comme fils de Dieu, comme ses gloires personnelles, ses gloires messianiques, ses gloires officielles, tout est jeté par terre. Il s'est confié en Dieu. S'il est le roi d'Israël, s'il est le fils de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Devant cette meute, une assemblée de méchants entoure les taureaux de Bazan sont. C'est le psaume 22. Remarquons que le Seigneur n'a pas un mot pour aucun de ses ennemis. Tout ce qu'il dit, il nous ouvre son cœur dans le psaume 22. C'est un écrin qui s'ouvre devant nous pour nous faire admirer le plus admirable des joyaux. Tout est pour Dieu. Pas un mot, pas un geste de défense. Seigneur s'adresse à Dieu. Et dans le moment de son tourment suprême, que fait-il? Il s'élève au niveau des louanges les plus hautes qui soient. S'élève la sainteté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Au moment où son fils est ainsi avili par l'homme, eh bien, il y a ce mec que nous trouvons ici. Mais, depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y a des ténèbres sur toute vie. Au moment où l'homme termine l'histoire de son cœur d'une manière aussi hideuse, Dieu entre en scène, Dieu commence, et Dieu entoure la croix d'un voile de ténèbres, sort son épée, voilà la réponse de Dieu, épée, réveille-toi contre l'homme qui est mon compagnon, et toi éternel, tu es saint, ne te tiens pas loin, ma force, hâte-toi de me secourir, l'autel est une chose très sainte, qui pourra sonder les heures de ténèbres, ce qui s'est passé lorsque le Seigneur portait, comme nous chantons quelquefois, l'éternité de notre châtiment. Les souffrances que l'homme lui a infligées ne sont qu'une entrée en matière pour connaître les affreux abîmes, le fond des mers, descend jusqu'au fond du Sheol lui-même. Je ne sais où j'en suis, c'est un fardeau trop pesant pour moi. L'autel. Vous voyez, dans toute cette liste d'ustensiles, l'Esprit de Dieu nous souligne que l'autel est une chose très sainte. L'autel dans le parvis. Et moi, si je suis élevé de la terre, l'autel dans le parvis nous parle de la croix sur laquelle le Seigneur est élevé. N'a plus un pouce de terrain sur la terre. C'est comme si l'homme lui disait, retourne au ciel d'où tu es venu. Nous n'avons pas besoin de toi sur la terre. L'autel est une chose très sainte. Et nous terminons par le fait maintenant. Le Dieu merci de l'envertu de cet effet, de la chose très simple, que nous est-il déjà? Comme quel enchaînement merveilleux de pensées, si douce à nos cœurs, comme nos cœurs brûlent de joie en lisant ce que nous avons là, comme cela est digne de Dieu, comme cela annonce cette grâce merveilleuse de Dieu. Verset 12, et tu feras approcher Aaron et ses fils. Voilà les symboles d'approche. C'est le résumé de ce que nous avons dans les chapitres 25 à 29. Ici, ce sont les symboles d'approche. En vertu de ce qui s'est passé, nous sommes partis de l'arche jusqu'à la porte du parvis par laquelle nous sommes entrés pour contempler la croix au pied de laquelle nous avons trouvé le pardon de nos péchés, et maintenant nous pouvons approcher. Et toi, fais approcher Aaron et ses fils. Nous sommes associés avec lui sur un terrain nouveau, celui de la rédemption accomplie. Il a établi mes pas, il m'a placé sur un roc, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, la louange de notre Dieu. Nous sommes maintenant des pierres vivantes, une sainte sacrificature, et nous pouvons avec lui entonner déjà le cantique nouveau. Nous chantons déjà maintenant par la foi ce que nous allons chanter en plénitude lorsque nous le verrons, et que tout ensemble en nous levant, quel moment ce sera autour du trône, quand nous allons le voir, nous allons tous nous lever et nous jeter sur nos faces devant lui et lui dire en chantant ce cantique toujours nouveau, tu es digne de prendre le livre, d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé. L'autel est une chose très sainte. Fais approcher Aaron et ses fils. C'est en vertu de ce sacrifice que nous approchons et que nous sommes oints. Au verset 13, Aaron est oint, nous nous sommes oints aussi. Lui a été oint avant que du sang soit répandu. Il a été oint de l'Esprit Saint et de puissance en vertu de la gloire de sa personne. Et maintenant, en vertu de l'excellence de l'œuvre qu'il a accomplie, nous-mêmes nous sommes oints. Au verset 15. Parce que le sang a été répandu, parce que l'autel, parce qu'à l'autel, le sang a été répandu, le sang a été versé au pied de l'autel, l'autel, la chose très sainte du verset 10. Tu les oindras comme tu auras oint leur père. Nous sommes oints de l'Esprit Saint, nous sommes unis avec lui pour l'éternité par le Saint-Esprit, lien indestructible qui nous unit pour l'éternité à Christ. Et pour faire quoi? Pour chanter. À toujours, comme nous l'exprimons dans un cantique. Voyez, car notre sacrificature, verset 15, est une sacrificature perpétuelle. Une sacrificature perpétuelle. À toujours, nous serons rois et sacrificateurs. À toujours, autour de lui, nous exalterons les gloires de l'agneau, la valeur infinie du sang qui a été répandu à la croix. Tous ensemble, avec tous nos bien-aimés qui nous ont devancés. Tous autour de lui, quel moment ce sera, lorsque nous allons nous dire maintenant, nous allons nous dire l'un à l'autre, maintenant c'est pour toujours. Plus rien ne viendra troubler le bonheur des élus. Il n'y aura plus ni crime, ni peine, ni larmes. Toutes les premières choses seront passées. Tout ce qui nous afflige aujourd'hui, tout sera selon la pensée de Dieu. Tout sera rendu triomphant et digne de l'œuvre qui a été accomplie. Et en terminant, vous voyez la gloire de verset 34, remplit la tente d'assignation et Moïse doit sortir. Même Moïse doit sortir de la tente. Impossible de demeurer dans la présence de Dieu. Et pour vous, chers amis, nous allons paraître, quelle différence, rendu saint et agréable dans le bien-aimé, nous allons paraître devant Dieu, devant sa gloire et avec abondance de joie. Nous ne devons pas sortir parce que la gloire remplit la maison, mais nous sommes associés à cette gloire qui est en lui, qu'il a acquise, et les gloires nouvelles qu'il s'est acquise au prix de sa mort et de ses vivants, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Et ces gloires personnelles, nous allons les contempler, afin qu'ils voient ma gloire. Contempler sa gloire personnelle, contempler sa gloire divine, et partager ses gloires de fils de l'homme. Et jusque-là, ce sera peut-être ce soir, nous avons la nuée, et nous avons non seulement la nuée, mais nous avons la colonne de feu, c'est-à-dire nous sommes les objets de ses soins jusqu'à la fin, nuit et jour. La colonne de feu la nuit et le jour. Pour nous mettre à l'abri du soleil, pour nous mettre à l'abri, pour nous faire connaître la fraîcheur, il y a un homme qui est un abri contre le soleil, c'est lui-même, et un homme qui nous conduit dans le chemin, à travers les ténèbres, il est la lumière, et il le fera jusqu'au moment où il va nous introduire dans la maison de son Père.
Chapitre 43.